La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour chers auditeurs, nous entendons parler d'innovation partout sur nos écrans de télé, sur nos smartphones, dans la presse et la radio. Bref, partout, même au sein des administrations de l'État. Pour témoigner de cela, j'ai le plaisir de recevoir Madame Samira Bousseta, responsable du pôle innovation à la direction des achats de l'État, pour aborder le sujet de la prise en compte de l'innovation dans les achats publics. Bonjour Samira.
Bonjour.
Samira, comment les achats publics facilitent aujourd'hui l'innovation?
Aujourd'hui, nous avons une réglementation relative au marché public qui est très très ouverte à l'innovation. En effet, la réforme majeure qui est intervenue dès 2014 en droit français, c'est l'introduction du fameux partenariat d'innovation. Donc c'est un nouveau contrat, un nouveau type de contrat qui permet de lier le contrat de R&D et le contrat d'achat dans un seul et même dispositif. Donc on ouvre ainsi la possibilité de cofinancer la R&D avec pour objectif de produire une solution nouvelle qui va bien entendu satisfaire les besoins de l'administration. Mais pour le partenaire, c'est aussi la garantie d'avoir l'accord pour l'achat de la première série. Et pour cela, pour une entreprise innovante, c'est quand même le Graal, je dirais. Alors pourquoi effectivement c'est un dispositif révolutionnaire? C'est parce que avant cette réforme, nous avions le contrat de R&D qui vivait d'un côté, et lorsque l'on souhaitait acheter la solution issue de cette R&D, il fallait lancer un marché public, c'est-à-dire lancer une mise en concurrence et potentiellement acheter une solution qui ne correspondait pas forcément à la solution qu'on avait contribué à développer, ce qui en soi pouvait être problématique, notamment lorsque l'on finance la R&D. Donc le fait d'avoir un 2 en 1, ça permet effectivement de lier les deux parties du projet, développer une solution innovante et acheter la solution innovante qu'on a développée. Le partenariat d'innovation, c'est une nouvelle modalité contractuelle qui est adossée à la procédure négociée. C'est une procédure qui est très intéressante parce qu'elle va permettre aux parties prenantes de déterminer ensemble les termes du contrat et surtout de négocier ce qui est relatif à la propriété intellectuelle, donc à la propriété notamment des résultats, mais aussi tout ce qui est relatif à l'évaluation de la performance de la solution. C'est vrai qu'en matière d'innovation, c'est important d'évaluer que la solution qui est en train d'être créée correspond à nos besoins, et notamment en matière de performance. Donc, je dirais effectivement, dès 2014, on voit que la réglementation s'est ouverte à l'innovation via ce partenariat d'innovation. Mais il ne faut pas oublier que les directives de 2014 et la réglementation donc de 2016 en droit français consacrent l'innovation aussi via deux autres dispositifs classiques que l'on connaît, le dialogue compétitif et la procédure avec négociation. Donc, dès qu'il s'agit d'acheter l'innovation, et lorsqu'il ne s'agit pas de créer une solution nouvelle, on peut avoir recours à des procédures pas forcément classiques, puisque l'appel d'offres reste la procédure de droit commun, mais par contre, permettre d'acheter de l'innovation via des procédures qui permettent l'échange, la discussion avec les candidats pressentis. Et je dirais, le dernier dispositif qui facilite aujourd'hui l'achat d'innovation, c'est le dispositif créé par le fameux décret Noël, que l'on appelle affectueusement Noël, qui est le décret du 24 décembre 2018. et qui a introduit donc pour ce dispositif expérimental qui permet pour un montant inférieur à 100 000 euros hors taxe de passer à marché de gré à gré, donc de pouvoir, je dirais, émettre un bon de commande pour acheter une innovation. Donc c'est un dispositif expérimental qui a une durée de 3 ans, donc ça c'est important de bien l'avoir à l'esprit, hein. C'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans un temps long, et cela va permettre effectivement d'évaluer l'intérêt de relever les seuils à ce niveau-là, pour guider l'acheteur. La direction des affaires juridiques de Bercy a publié une fiche très complète qui permet donc à l'acheteur déjà d'apprécier les contours de la définition de l'innovation. C'est toujours un sujet, hein, de savoir identifier une innovation, et aussi de mesurer le sourcing qui est nécessaire pour valider le recours à cette mesure. Donc globalement, on peut dire que tous les feux sont au vert, hein, sur le plan réglementaire, hein. L'innovation fait partie aujourd'hui intégrante du code de la commande publique. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres de ce que représente aujourd'hui l'achat public, donc juste le montant relatif au marché public, l'achat public est un formidable levier économique, et l'achat public peut soutenir une politique publique qui vise à accélérer l'émergence de filières innovantes et donc d'avoir un impact direct sur la croissance des entreprises. Donc effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui, les achats publics facilitent l'intégration, l'identification et l'intégration d'innovation au sein de nos administrations.
Alors je ne suis pas comptable, mais je vous écoute, j'entends achat d'innovation. Est-ce que ces nouvelles modalités font qu'on distingue un achat comme investissement ou est-ce que c'est une dépense ?
Alors effectivement, quand on parle d'achat d'innovation aujourd'hui, il faut, je dirais, changer de posture. On n'est plus dans une posture où on va être dans l'approvisionnement, et donc dans ces cas-là on parlera plus de dépenses, mais on va être dans une posture de prise de risque. Puisque l'innovation, dans l'innovation, il y a une grande part d'inconnu. Et cet inconnu-là, il s'agira à l'acheteur, hein, de bien identifier comment accompagner son organisation dans, la prise de risque, l'évaluation du risque, et faire en sorte de que ce risque soit bien entendu encadré pour qu'il ait un impact minimum. Donc, qui dit prise de risque dit effectivement investissement, c'est-à-dire on va investir pour son organisation, puisque via l'innovation, on va essayer de la moderniser. Via l'innovation, on va essayer effectivement de moderniser l'administration et l'action publique. Mais aussi, il s'agit vraiment d'un investissement pour des entreprises innovantes, puisque via l'achat public, on contribue à financer l'innovation. Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs de financement de l'innovation qui existent. Au-delà des dispositifs fiscaux, il y a un certain nombre d'aides qui existent, notamment via les régions. L'achat public représente aussi une autre manière de financer l'innovation. Donc, on rentre dans une logique effectivement d'investissement et d'acteurs de développement économique, même de territoire.
D'accord. Ça c'est vraiment pas, enfin jusque-là, je peux me le permettre, c'était pas vraiment la vocation de l'État d'intégrer cette notion d'investissement.
Bien entendu, c'est vrai qu'aujourd'hui, même à l'heure actuelle, l'achat public n'est pas encore vécu comme un vrai vecteur, un vrai levier économique, mais plus comme effectivement de l'approvisionnement. Mais il y a une vraie transformation du métier d'acheteur, et on le voit aujourd'hui. La fonction achat est de plus en plus au cœur de l'activité de l'organisation. Il suffit de voir que des régions ont créé des directions des achats au sein des collectivités. On a de plus en plus de vraies directions achats qui sont adossées quelquefois à des services plutôt, on va dire, marché, donc qui sont plus en charge de la contractualisation. La notion d'achat au sein du secteur public commence à avoir de plus en plus d'importance. et il y a une vraie professionnalisation du métier d'acheteur pour accompagner eh bien la modernisation de son organisation. Et l'innovation est au cœur de cela. Donc oui, on s'éloigne de plus en plus du métier, je dirais, de gestionnaire des marchés publics à un métier d'acheteur, c'est-à-dire celui qui est à l'interface entre le monde extérieur, celui de l'entreprise, du monde des fournisseurs et le monde intérieur, hein, donc de son organisation, qu'il est censé bien connaître, et il est là pour être un facilitateur, pour aider finalement son organisation à utiliser les meilleurs outils offerts par les fournisseurs pour qu'elle puisse exercer ses missions de la manière la plus performante.
Mais donc on se pose la question du retour sur investissement, quoi.
Voilà, et effectivement, donc en matière d'innovation, il y a un vrai sujet, eh bien, d'être, je dirais, un tout petit peu plus professionnel dans la manière dont on va appréhender son besoin, pour savoir, effectivement, si le besoin nécessite un investissement, et bien entendu, d'avoir un retour sur investissement qui peut se mesurer de différentes manières, que ce soit par rapport à la performance de la solution innovante, et donc ce qu'elle a contribuer à générer comme gains, que ce soit des gains économiques ou de l'efficience par rapport à des processus, etc. Mais aussi, je dirais, dans un deuxième temps, un ROI qui peut être évalué par rapport à le niveau de commercialisation de la solution qu'on a contribué à créer, et donc le retour sur investissement qui peut se faire via différents biais que nous permet la réglementation relative à la propriété intellectuelle. Et du coup, il y a cette logique de professionnalisation des acheteurs qui aujourd'hui ne peuvent plus rester effectivement enfermés dans le droit public, le droit administratif, le droit des contrats publics, mais qui va devoir s'inspirer d'autres éléments plus économiques, et notamment tout ce qui est relatif à la propriété intellectuelle, qui est vraiment un sujet central lorsqu'on parle d'innovation.
Merci Samira pour toutes ces informations. Pouvez-vous nous expliquer comment un marché public peut permettre l'achat de solutions innovantes ? Est-ce que vous auriez un exemple ?
Il y a, si on sort des éléments réglementaires que je viens d'évoquer, en fait, on va devoir développer des stratégies d'achat ouvertes à l'innovation. Et il y a différents biais pour le faire. Le premier biais, c'est bien entendu le sourcing, c'est-à-dire aller détecter des solutions innovantes, donc aller dans des salons, aller dans des événements qui permettent de rencontrer des entreprises et de se tenir très informé de ce que proposent aujourd'hui les entreprises innovantes. Donc le premier biais, c'est le sourcing. Ensuite, il va falloir travailler sur un cahier des charges qu'on va dire plutôt fonctionnel. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour décrire la solution sur le plan technique ou même technologique. On va plus travailler sur une définition qui va permettre d'identifier un problème à résoudre, qui va permettre d'identifier le contexte, qui va permettre d'identifier les enjeux, qui va permettre d'identifier les éléments relatifs à la performance attendue, par exemple. Donc, on va être vraiment sur du fonctionnel. Et puis, il y a aussi la possibilité d'ouvrir aux variantes, qui sont une possibilité offerte aux entreprises de présenter des solutions qui sont différentes de la solution qui serait décrite sur le plan technique dans le cahier des charges. Et ça, c'est vraiment un sujet, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'a pas recours à des procédures un peu ad hoc de type dialogue compétitif ou procédure avec négociation, c'est très important d'ouvrir le marché aux variantes pour ne pas enfermer son marché, pour ne pas orienter son marché à des solutions techniques qu'on connaît, mais bien entendu à des solutions qu'on n'a pas forcément identifiées, mais qui sont performantes. J'inciterai vivement les auditeurs à aller regarder le guide que vient de publier la direction des affaires juridiques de Bercy. Très bon guide auquel on a pu contribuer, nous, côté direction des achats de l'État, mais avec un ensemble de parties prenantes et notamment des fédérations professionnelles qui représentent les entreprises innovantes, pour pouvoir proposer un ensemble de conseils opérationnels qui visent à aider l'acheteur à mieux faire des achats d'innovation. Et notamment, il y a un point qui est intéressant et qui aide l'acheteur à l'identification de solutions innovantes, c'est la création d'une méthode de faisceau d'indices qui va permettre à l'acheteur de mieux appréhender, lorsqu'il rencontre une entreprise innovante, de mieux identifier les aspects innovants de la solution que cette entreprise propose. Un autre guide aussi qui peut être très utile, c'est le guide sourcing. Donc, je parlais du sourcing comme étant effectivement un vrai vecteur d'identification d'innovation disponible sur le marché. Eh bien, c'est le guide sourcing que nous avons produit à la Direction des achats de l'État, hein, qui est disponible sur le site de la Direction des achats de l'État et qui donne des vrais outils aux acheteurs pour les aider à se professionnaliser dans le sourcing. Je disais effectivement aller à des salons, etc., ça participe du sourcing, mais il faut tout de même, quand on va à la rencontre d'entreprise, avoir des outils clés qui permettent un petit peu de décrypter le langage plutôt des entreprises. Donc, c'est vraiment un guide qui peut être très utile. Et je dirais plus largement accélérer l'achat d'innovation, c'est très important de tisser des liens avec l'écosystème et même de tisser des liens avec les départements internes aux organisations, aux administrations qui s'occupent d'innovation ou encore qui s'occupent de développement économique. Là-dedans, il y aura effectivement, un vivier intéressant d'informations très utiles pour l'acheteur pour qu'il puisse rapidement peut-être capter des innovations qui sont produites sur le territoire. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à même développer un réseau en interne. Et puis dernier conseil, il ne faut pas hésiter aussi à travailler avec des réseaux d'acheteurs. Il y en a plusieurs qui existent. Nous, au sein de l'État, on a créé un réseau qui s'appelle Innovaction, qui est le réseau des référents achats innovants de l'État. Et notre communauté, l'objectif qu'on s'est donné, nous, c'est d'essayer de co-construire ensemble des outils pour accélérer l'achat d'innovation. Donc, le premier effet, c'est déjà qu'on se sent moins seul face à ce vaste sujet. Et ça, c'est vraiment essentiel de partager et d'échanger pour pouvoir voir que l'achat d'innovation est possible.
Alors, je vous écoutais, à un moment donné, vous avez parlé d'être à l'écoute du monde économique autour de nous. Et je regardais, ce que j'entends, c'est qu'il y a l'économie circulaire qui arrive avec des nouveaux modèles économiques comme l'économie fonctionnelle, l'économie d'usage. Donc, l'achat, en fait, maintenant, je pense que ça doit commencer à évoluer vers l'achat de prestations plutôt que l'achat d'outils ou de matériel. Oui.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait partie des sujets d'innovation. Hein. C'est acheter autrement. Aujourd'hui, on est très attaché, mais c'est parce que on est encore dans les logiques d'approvisionnement, hein, ce qui est tout à fait normal puisque pendant de nombreuses années, vraiment quelques décennies, c'est ce que nous devions faire. Hein. Donc, on est très attaché à l'achat de produits. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça. Le produit en tant que tel n'a plus vraiment beaucoup de valeur. C'est plus les services autour du produit et notamment réfléchir dans des logiques de coût total de possession. Ça doit permettre effectivement à l'acheteur de mieux orienter son besoin. Et aussi de mieux orienter son besoin par rapport à des solutions qui sont disponibles sur le marché, qui ne font plus que vendre un bien, mais bien entendu une offre de services qui accompagne ce bien et qui vont intégrer certains éléments, notamment des sujets de recyclage ou en tout cas des sujets qui vont permettre de mieux identifier sur à coût égal quel est le meilleur produit à acheter.
Mais ça veut dire que derrière, la démarche qualité va être une obligation.
La démarche qualité, je dirais même plus presque la démarche innovation. oui, effectivement, ouais. Effectivement. Non, mais c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut plus raisonner comme un acheteur public, passeur de marché public, parce que ça veut dire que cette structure n'a pas besoin d'être en interaction avec les autres services. Mais si on raisonne plutôt sur une approche en coût global, eh bien, on va devoir s'intéresser à ce qui se passe sur son territoire. Et notamment si on parle d'économie circulaire, va falloir chercher des circuits dans lesquels bah, le bien va pouvoir être pris en charge une fois que bah, son usage sera terminé et qu'il ne parte pas dans la nature. Donc du coup, ça veut dire travailler dans une logique d'écosystème. Et ça, l'acheteur doit absolument l'appréhender pour pouvoir mieux l'intégrer.
Il y a de quoi innover là.
Alors là, c'est de l'innovation dans le processus d'achat, effectivement. Et c'est très intéressant parce que beaucoup de structures maintenant, enfin beaucoup, certaines, vont plutôt partir sur des logiques, on va dire, supply chain, pour parler français, d'avoir donc toute la chaîne achat et logistique pour pouvoir effectivement avoir la main sur eh bien toute la vie du bien à partir du moment où on décide de l'acheter jusqu'au moment où on décide de s'en séparer et des logiques aussi d'approvisionnement. Et là-dessus, il y a beaucoup d'axes de performance qui sont aussi, on va dire, très innovants parce que bah, c'est toute une chaîne à créer. Et une chaîne qui doit être bien intégrée dans l'organisation.
Bon, bah écoutez, il y a de quoi faire, hein, Samira.
Il y a de quoi faire, tout à fait.
Alors, j'ai peut-être mal entendu, mais quels seraient les premiers pas à faire pour passer des marchés innovants ?
Alors, c'est vrai que quand on me pose cette question, généralement, on s'attend à ce que je dise, faire du sourcing ou commencer à regarder sur quel marché on pourrait faire de l'innovation. Moi, je dis que le premier pas, c'est d'acculturer les équipes, les managers et les décideurs à l'innovation. Parce que finalement, l'achat d'innovation, c'est aussi une question de culture de l'innovation. On l'a vu, hein, tous les outils sont là. Je veux dire, la réglementation, elle accompagne à l'achat de l'innovation. Je l'ai dit précédemment, tous les feux sont au vert sur le plan juridique. Et cependant, on voit bien qu'on a du mal à aller vers l'achat d'innovation. Même le décret de Noël sur le seuil à 100 000 euros, on a du mal à le prendre en main. Et finalement, c'est vraiment une question de culture, l'innovation. C'est une question de savoir comment appréhender ce sujet du risque et donc de le manager. C'est aussi intégrer le droit à l'échec, parce que l'innovation, c'est aussi accepter le fait que on est parti sur un terrain inconnu et que ce qu'on avait dans la tête, ça ne marche pas. C'est comprendre comment fonctionne l'écosystème de l'innovation en France. Aujourd'hui, bien comprendre ce qu'est une start-up, comment est financée l'innovation en France aujourd'hui, quels sont les points d'attention sur lesquels sur les points sur lesquels on doit faire attention dans un contrat qu'on signe avec une PME innovante. Et ça, c'est vraiment important, je pense, effectivement, d'aller vers une acculturation à l'innovation. Nous, au sein de l'État, eh bien, on a organisé un séminaire sur comprendre l'innovation pour mieux l'acheter. Donc, je dirais dans le titre du séminaire, on comprend bien l'idée. On a organisé aussi des goûters de l'achat public dans différents labs pour amener des acheteurs pour qu'ils puissent rencontrer des startups, non pas forcément dans des logiques de sourcing, mais pour mieux comprendre ce qu'est une startup côté acheteur et côté startup pour mieux comprendre ce qu'est l'achat public. Et du coup, l'idée, c'est de voir comment travailler de manière intelligente avec l'écosystème de l'innovation, de voir comment on peut aussi challenger nos stratégies d'achat avec l'ensemble des parties prenantes pour que nos marchés qui seront passés dans 2 ans soient toujours au goût du jour. Et du coup, on mène des expérimentations. Et typiquement, un sujet qui est très important et qui intéressera certainement les auditeurs, c'est les enjeux en termes sur les sujets des mobilités, puisque il y a beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, on compte plus de 50% des innovations produites par les startups sont dédiées au sujet des mobilités. On essaie de travailler avec le ministère des Transports pour essayer de construire avec des labs des projets d'achat ouverts sur l'innovation. Il faut faire attention, on ne va pas orienter des marchés vers des entreprises, c'est absolument pas ça. C'est plus voir ce que le marché propose et comment nous pourrions l'intégrer de manière plus intelligente dans nos marchés. Donc là, effectivement, on a dépassé le premier pas, là on atteint certains niveaux de maturité, mais en fait c'est tout le cheminement qui permet d'arriver à cela. C'est parce que on a commencé à créer cette culture de l'innovation en interne, que du coup on a commencé à se permettre à aller vers d'autres manières de monter nos marchés, de monter nos projets d'achat. Et aussi de pouvoir créer ce travail en réseau, en interne avec les prescripteurs, mais aussi avec les décideurs, et en externe avec l'écosystème de l'innovation.
Merci Samira. Le travail en réseau est monnaie courante. J'ai pu vous entendre, vous entendre là, il n'y a pas longtemps, de nos jours. Hein. Si c'est le cas pour vous, donc je pense que c'est le cas, pouvez-vous nous en dire plus sur ces pratiques dans votre environnement professionnel?
Alors effectivement, j'en ai parlé. En fait, on a créé cette communauté Innovation au sein d'État pour faire que les acheteurs travaillent en réseau. Mais par ailleurs, lorsqu'on essaye de pousser l'innovation, il faut aussi apprendre à se connecter à d'autres réseaux, on va dire d'innovateurs. Et parce que pour travailler sur l'achat d'innovation, il faut être innovant. Donc par exemple, au sein du ministère de l'Économie et des Finances, il y a une mission innovation propose à des volontaires en tout cas d'être désignés correspondants à innovation au sein des directions de Bercy. Donc moi j'ai demandé à être désigné correspondant à innovation et dans ce cas donc du coup j'ai pu bénéficier d'une formation à la facilitation. Et avec la promo 1 dont je faisais partie, nous avons créé un réseau, enfin même une communauté des facilitateurs internes du ministère qu'on appelle Facilitaqueur. Et on a de la chance parce qu'effectivement à Bercy, nous avons le Bercy Lab, hein, qui est le laboratoire d'innovation du ministère. Et en tout cas pour moi, ça me permet effectivement, avec mes collègues facilitateurs, de pouvoir mener des ateliers plutôt en intelligence collective et dans le cadre qui m'intéresse moi, eh bien d'accompagner soit les acheteurs de la direction des achats de l'État, soit d'autres acheteurs dans d'autres ministères dans leurs projets d'innovation ou de transformation. Et le fait d'appartenir à un réseau qui n'est pas forcément un réseau d'acheteurs, mais un réseau d'innovateurs, c'est que moi, ça me permet effectivement d'échanger sur mes sujets, sur mes problématiques, et de trouver des clés auxquelles je n'aurais pas forcément pensé, d'apprendre effectivement sur les pratiques aussi dans d'autres secteurs où il est nécessaire d'innover, et puis c'est surtout de partager. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc aujourd'hui, travailler en réseau, c'est pas ça devient nécessaire parce que on est dans un monde qui évolue très vite, et pour pouvoir s'adapter, il faut s'ouvrir.
S'ouvrir, d'accord, Samira. Notre émission touche à sa fin. J'ai une dernière question à vous poser. Au début de notre émission, vous avez évoqué la fonction de R&D au sein des marchés publics. Et croyez-vous que l'on puisse lier la fonction de recherche et développement et le domaine des marchés publics?
Pour moi, c'est certain. Ça doit se faire de plus en plus, notamment dans des secteurs où la R&D est très importante. Je dirais dans les grands laboratoires de recherche ou encore dans les universités. Et on le voit de plus en plus. En tout cas, moi, de mon expérience, notamment avec l'université Lyon 3, on travaille sur un projet de formation par la simulation pour les professionnels de soins. Eh bien, ce sont des innovations qui sont issues du laboratoire de recherche de l'université Lyon 3 et qui vont être proposées aux professionnels de soins et cela via des marchés publics, c'est-à-dire que on va contribuer à acheter les solutions qui ont été créées au sein de la R&D pour pouvoir les proposer et les déployer au sein des universités. Donc là, il y a un vrai rapprochement parce que pour le coup, on travaille en étroite collaboration avec les chercheurs pour voir comment ces solutions qui sont développées puissent trouver entre guillemets preneurs dans le monde de l'entreprise, donc soit par le biais effectivement d'un chercheur qui devient un start-upper, soit par le biais de conventions qui sont passées entre des start-ups et des laboratoires de recherche. Et l'acheteur, il est au cœur de tout cela parce qu'il va transformer ce partenariat-là en partenariat d'innovation pour que l'acquisition puisse se faire. Donc, pour moi, les rapprochements, ils sont très clairs. Ils sont, en tout cas, dans certains secteurs, ils vont devenir de plus en plus importants. Et pour ça, il faut aussi s'inspirer de ce qui se passe dans le privé. On oppose souvent un acheteur public, un acheteur privé, pour plein de raisons, et notamment parce qu'effectivement, dans le privé, la matière achat est plus mature, mais c'est vrai qu'il faut de temps en temps regarder ce qui se passe dans le privé et s'en inspirer. Aujourd'hui, les grandes industries créent des vrais pôles stratégiques dans lesquels on va retrouver la direction de l'innovation, la direction de la R&D qui quelquefois même est dans la direction de l'innovation. On parle plus de R&D mais de IRD, donc innovation, recherche et développement. Donc c'est pour vous dire qu'on objective la R&D pour pour innover. Et puis, on y intègre la direction des achats pour qu'elle puisse être au cœur de ce qui est produit comme innovation par l'entreprise et qu'elle puisse donc du coup trouver les meilleurs partenaires pour produire cette innovation. Et là, on voit bien effectivement que le rapprochement, en tout cas dans certains secteurs, il devient nécessaire. Il devient nécessaire parce qu'il y a aussi des logiques, bien entendu, de côté privé, des logiques de concurrence entre grands acteurs. Mais dans le public, il devient nécessaire parce que ça participe aussi de la modernisation de l'action publique. Et quelquefois, la R&D publique produit des solutions très innovantes qui peuvent contribuer à la modernisation de l'action publique, que ce soit dans le secteur de la santé, comme je l'ai évoqué, ou peut-être dans d'autres secteurs. Et là-dessus, il y a matière à faire.
Merci beaucoup, Samira Boussetta, pour votre témoignage et le regard porté sur ces questions. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes responsable du pôle innovation à la direction des achats de l'État.
Au revoir.
Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission et la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.